Et merci bien sûr aux intervenants d'être là pour nous parler de cette thématique, de ce thème de la question kurde et de comment cette thématique s'inscrit aujourd'hui dans une région comment est-ce qu'on peut la qualifier? Moi-même, journaliste, on a l'habitude des grandes formules et des qualificatifs catastrophistes. Et puis en même temps, là, on manque un peu de mots, quoi. Tellement on est surpris de semaine en semaine par tout ce qui arrive, par les développements. L'expertise de nos trois intervenants ne sera pas trop aujourd'hui. Donc on va commencer. Vous connaissez sans doute le principe. On va faire un premier tour de table ou deux si on en a le temps. Et puis ensuite on ouvrira le plus vite possible la discussion à vos questions, enfin à vos interventions, à vos remarques. Étant entendu que la conversation est enregistrée et que que vous pourrez la réécouter tranquillement à la maison ou la faire partager à vos proches. Une région à feu et à sang, je ne vais pas la décrire entièrement parce que ça prendrait toute l'heure ou l'heure et demie. Hein. Simplement pêle-mêle quelques remarques ou quelques éléments. On est donc au centre de cette région, avec un pays, la Syrie, complètement dévasté par 8 ans de guerre, avec des millions et des millions de déplacés, de réfugiés, des centaines de milliers de morts. Face à ça, ou à côté de ça, nous sommes face à une grande puissance, les États-Unis, qui fait mine de se retirer, qui retire ses troupes, qui les garde pour le pétrole, comme l'a répété encore Donald Trump aujourd'hui, mais qui, au passage, cette puissance est prête à abandonner ses alliés et à plonger, à contribuer pour sa part aussi à plonger cette région dans l'inconnu et dans la poursuite de la violence. On a une autre puissance régionale, la Turquie, qui est maintenant présente dans le nord de la Syrie. Et dont les responsables et le responsable ultime, qui est le président turc Erdogan, ne se cache pas d'une certaine nostalgie de l'Empire ottoman et d'aller intervenir non seulement chez le voisin du sud, donc dans le nord de la Syrie, mais aussi ces dernières semaines en Libye, donc bien au-delà. On a à côté un autre pays, l'Irak, qui connaît une contestation très très importante, hein, au point qu'on se demande si ce pays va réellement tenir. Quoi. Les experts en parleront, mais le point de vue du journaliste, c'est que ce pays est vraiment très fragile maintenant et que cette contestation débouche sur des dizaines et des dizaines de morts et que les choses sont loin de se régler. Un tout petit peu plus à l'est, enfin, on a l'Iran avec les généraux qui se font assassiner par des drones, un général en particulier, hein, dont on évoquera peut-être le sort et le rôle dans toute cette région, mais aussi un pays qui connaît de très grandes contestations et un avenir pour le moins certain. Donc voilà, très très rapidement, esquisser à grands traits un tout petit peu le panorama général. Pourquoi est-ce que je vous parle de ces pays? Eh bien, c'est bien simple, c'est que dans ces quatre pays, donc la Turquie, la Syrie, l'Irak et l'Iran, comme vous le savez, est disséminé l'essentiel du peuple kurde, qui est à la fois un peuple et une nation en soi, mais qui est aussi tributaire de ces différences nationales et de ce panorama plus général de la région. Pourquoi c'est intéressant aussi de parler de cette question kurde maintenant? C'est qu'on commémore le 100e anniversaire du traité de Sèvres, comme vous le savez, qui a été conclu en, en 1920, donc il y a 100 ans, et qui avait donné une sorte d'espoir très éphémère aux Kurdes d'obtenir un État, et qui a été un espoir qui a été mis en pièces quelques années plus tard par ici même, ou pas loin d'ici, par le traité de Lausanne, 3 ans plus tard. Très bien, je sais que la tradition veut que les intervenants se présentent eux-mêmes en quelques phrases. Sans plus tarder, on va les laisser donc se présenter, mais en lien évidemment avec cette thématique. Si vous aimez, si vous avez des hobbies par ailleurs, ça nous intéresse aussi, mais peut-être que la question kurde principalement qui justifie le fait que vous soyez ici. Donc à tout seigneur, tout honneur, je vais commencer peut-être par Jordi Tegel, qui est ici à la maison, puisque vous enseignez dans cette même université, en quelques phrases.
Donc effectivement, j'enseigne ici à l'Université de Neuchâtel, à l'Institut d'Histoire, et puis j'étudie la question kurde depuis 25 ans. Peut-être je peux dire que j'ai travaillé sur toutes les régions kurdes, mais plus particulièrement peut-être sur les Kurdes de Syrie et du nord de l'Irak. Voilà. Et puis, auteur d'articles, de livres, mais ce qui est normal pour la recherche.
Nicolas Appel.
Alors, moi, je travaille plutôt sur la Syrie et avant ça sur l'Iran. Et c'est à travers plutôt le prisme de ces deux États, Syrie donc, et Iran, que je me suis aussi intéressé à la question kurde et aussi par mon parcours en relations internationales où ces questions finalement qui ont été évoquées dans l'introduction de Louis Lema questionnent finalement le rôle des Kurdes et la situation dans laquelle ils se trouvent dans ces questions de puissance, de retrait des puissances. Voilà.
Özcan Yılmaz, j'enseigne à l'Université de Genève. J'ai aussi fait une thèse sur la question kurde, mais j'ai essentiellement travaillé sur les Kurdes de Turquie. Et puis, comme mes voisins, je m'intéresse aussi aux autres Kurdes. Et aussi, donc voilà, j'ai aussi des articles et des livres sur la question kurde. Puis, d'une manière générale, donc, j'ai essayé de vraiment, ces derniers temps, aussi m'intéresser aux aspects régionaux et puis la politique internationale également. Concernant les Kurdes.
Très bien, ben merci beaucoup. Peut-être, professeur Tegel, par modestie, vous n'avez pas donné le titre de vos livres, et notamment d'un best-seller qui est la question kurde en son. Non, les Kurdes en son question. On va peut-être commencer par vous, du coup, parce que moi j'en ai une sur la question kurde. En lisant votre livre, on voit très clairement, et c'est quelque chose qui c'est un thème qui revient très très fréquemment quand on parle de cette question kurde, c'est comment, pour reprendre une formule célèbre de football, il y a deux matchs, deux équipes face à face, et à la fin c'est les Kurdes qui perdent. En gros c'est ça l'histoire des 100 dernières années. Peut-être un tout petit éclairage historique sur cette sorte de malédiction de ce peuple. Est-ce que c'est par le fait de se situer au mauvais endroit? Qu'est-ce qui fait que les Kurdes, encore une fois, maintenant, on a l'impression qu'ils sont passés par perte et profit dans des sortes d'arrangements qui les dépassent?
Je dirais que pour répondre très brièvement à cette grande question, c'est de dire que peut-être que la question kurde n'a jamais été une question essentielle, primordiale pour les puissances européennes ou mondiales, à la différence d'autres questions. Donc, c'est vrai qu'en 1920, on a promis la création d'un État kurde, même de manière très limitée, hein. Mais il y avait cette promesse, mais en même temps, pour beaucoup d'autres raisons qui étaient plus importantes pour les Européens, Finalement, on n'a pas soutenu cette idée, on a lâché cette cause ou ce projet national. Et on le retrouve au cours du XXe siècle. À plusieurs reprises, les Kurdes ont été dans le devant de la scène, mais finalement, il y a toujours d'autres intérêts, que ce soit le pétrole, que ce soit la stabilité de la région, qui font que les demandes ou les revendications kurdes ne sont pas si importantes pour le gouvernement occidentaux, mais aussi on peut parler de la Russie, comme importante puissance mondiale. Cela dit, après je passe, je dirais qu'il y a une petite différence. Évidemment, aujourd'hui les Kurdes sont connus, on parle de la question kurde, on a beaucoup parlé de Rojava par exemple, on a des images de ce qu'est le Kurdistan, ce qui n'était évidemment pas le cas au début du XXe siècle. Donc il y a quand même une meilleure connaissance dans l'opinion publique générale. Il y a aussi un engagement des pays, puisqu'il y a beaucoup de consulats, par exemple, des pays européens au Kurdistan irakien. Donc il y a une certaine reconnaissance. Mais en même temps, effectivement, il y a toujours cette limite, c'est-à-dire que quand même, ce n'est pas une question primordiale. Et on l'a vu, par exemple, lorsque le Kurde irakien ont organisé ce référendum d'autodétermination en 2017, et les États-Unis eux-mêmes ont été les premiers à dire non, on ne reconnaît pas ce résultat, il faudra attendre une autre occasion. Donc, voilà. Et où le Kurde de Syrie, après avoir lutté contre l'État islamique, voilà, Trump annonce qu'il se retire et ils ouvrent la porte à une intervention militaire de la Turquie. Donc, de nouveau, il y a quand même ce sort de continuum de voir cette question kurde comme pas vraiment importante pour l'ordre mondial, peut-être, mais il y a quand même une progression de la connaissance et peut-être de revendications kurdes. Quand même.
Juste peut-être, Monsieur Yılmaz, pour poursuivre sur cette question. Donc votre collègue parlait de ce référendum en Irak, dans la région kurde d'Irak, en septembre 2017, qu'on sentait venir le désastre, à mesure que ça s'approchait. Les puissances commençaient à dire non, n'allez pas jusque là. On ne reconnaîtra pas le résultat de ce référendum, etc. Si on prend donc la Syrie, avec le nord de la Syrie, là aussi, on a l'impression que les forces kurdes ont pris beaucoup de terrain et que tôt ou tard, le retour de Manivelle allait venir, puisqu'il est toujours venu par le passé. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement ces derniers mois? Est-ce que les Kurdes ont fait une sorte de pari en disant il faut qu'on aille et qu'on aille jusqu'au bout et quitte à s'imposer par la force, ou bien est-ce qu'ils ont mal jugé la situation et ce qui allait venir?
En ce qui concerne les Kurdes irakiennes, il faut quand même rappeler qu'en fait l'idée de référendum était présente depuis en tout cas 2013-2014, ça a été retardé à cause de cette instabilité des régionales. Mais il est vrai que dans la précipitation, les Kurdes ont pris un certain nombre de risques, même si en fait les acteurs régionaux et globaux avaient manifesté leur refus. Les Kurdes ont pris un certain nombre de risques. Je pense que cela est lié au fait que, de leur point de vue, il était évident que ça serait extrêmement difficile d'organiser et de faire reconnaître, mais il y avait quand même quelque chose de tout à fait particulier dans le cas du Kurdistan irakien. Pour la première fois dans l'histoire des Kurdes irakiens, ils avaient le contrôle sur l'ensemble des territoires kurdes. Je pense que cet élément-là était tout à fait important. Et moi, en tout cas à l'époque, quand je suivais un petit peu les déclarations et la politique kurde irakienne, ils disaient assez clairement que de toute façon, une fois que la guerre avec Daesh est terminé, le gouvernement central se tournera vers les Kurdes et les milices Ahtishabi notamment se tourneront vers les Kurdes. Et donc il faut peut-être y aller vite, précipiter les choses, ne pas laisser partir ce moment, saisir ce moment finalement pour manifester le désir du peuple kurde. Après, fait bien sûr, on peut dire que c'était un calcul trop risqué, mais je pense qu'ils avaient quand même aussi une certaine logique. Donc, pour la première fois, notamment la ville de Kirkuk était sous le contrôle kurde, elle a pu voter. Donc c'était la meilleure façon du point de vue des acteurs kurdes de manifester en fait le désir kurde et justement sur l'ensemble du territoire kurde. Et finalement, donc, ce que vous dites est tout à fait juste. Le résultat est plutôt catastrophique pour les Kurdes. Mais en même...
Si on rappelle le résultat qui a été annoncé, c'était quoi, 94%
faveur. Je ne parlais pas du résultat du référendum, Donc sur le plan, donc en ce qui concerne le vote, il est historique. Donc une majorité écrasante, presque 94%. Mais en ce qui concerne les gains des Kurdes, c'est plutôt difficile parce qu'ils ont perdu une très bonne partie des territoires en fait qui étaient mis sous leur contrôle, sur lesquels ils avaient instauré leur contrôle à partir de 2014 notamment. Et donc le leadership kurde a été affaibli. Il y avait beaucoup de critiques, il y avait beaucoup de difficultés. Mais on a l'impression que depuis un certain temps, depuis qu'en Irak notamment il y a des difficultés, en tout cas depuis les dernières élections irakiennes, l'acteur kurde revient, se renforce et profite de cette instabilité dans la région. Bien sûr, là, dans l'immédiat et à moyen terme aussi, il est difficile d'envisager en fait que les Kurdes reprennent les territoires perdus, mais c'est un acteur qui se renforce, qui devient encore une fois en fait important, puisque le pays est, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, en fait, le pays est dans une très grande instabilité, et cela permet aux Kurdes justement de trouver une marge de manœuvre en Irak. Mais cette marge de manœuvre, elle est aussi renforcée à cause de l'instabilité régionale liée à l'Iran et à la Syrie. Donc c'est un acteur qui est revenu dans le jeu politique irakien. Mais c'était un moment historique, il faut quand même rappeler, parce que dans ce genre de choses, je pense qu'il ne faut pas peut-être se limiter en fait à ces pertes territoriales. Sur le plan symbolique, c'était quelque chose de tout à fait historique dans l'imaginaire kurde, dans l'espace national kurde. Ça, en fait, l'organisation du référendum a mobilisé tout l'espace kurde, y compris la diaspora. Et donc, c'était un moment vraiment très important en ce qui concerne le récit national, les mobilisations nationalistes kurdes. Et cela est aussi vrai, en fait, en ce qui concerne les mobilisations autour de Rojava, en ce qui concerne les Kurdes de Rojava. Il est évident qu'à cause de la politique américaine, il y a eu des pertes territoriales. Il y a eu un affaiblissement de l'acteur kurde, mais je pense qu'il faut quand même l'insérer dans un processus historique et symbolique. Sur ces deux plans-là, je pense que pour beaucoup de Kurdes, c'est quand même encore tôt de dire que c'est des défaites, c'est des pertes et que c'est fini.
Peut-être une toute petite anecdote qui a eu lieu ce matin à Davos, hein, où le président Donald Trump, vous l'avez peut-être vu, recevait le président du Kurdistan irakien, et il lui a tenu un grand discours sur leur collaboration et la nécessité pour eux de continuer à être sous le chapeau américain, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait il était de toute évidence en train de parler dans sa tête aux Kurdes de Syrie et non pas d'Irak. En face, son interlocuteur était très poli et lui a remercié de le prendre en considération et d'être si attentif à son sort. Mais enfin, c'était on ne peut plus parlant sur la situation actuelle. Voilà, Nicolas Appel, peut-être pour défendre les États-Unis. Est-ce que le non, je blague, mais évidemment, le retrait américain est une grande, annonce des grandes difficultés, pour le moins. En même temps, ça fait bien longtemps qu'on reproche aux Américains d'être présents dans la région. Bon débarras, ils s'en vont finalement. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de cette annonce de retrait américain ?
Alors bon, je vais vous décevoir, je ne vais pas du tout défendre la position américaine, non. Je pense qu'il faut... ce qui se passe pour les Kurdes, je pense qu'il faut l'insérer dans une perspective plus large et pas surestimer le rôle des États-Unis. Ça fait très longtemps qu'ils ont perdu la main au Moyen-Orient. Très longtemps qu'ils ont perdu la main au Moyen-Orient. Et ce n'est pas une question de déclin américain, mais c'est une question plutôt d'impossibilité de changer l'approche, c'est-à-dire une approche basée seulement sur l'interventionnisme, sur la puissance. Et ça, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit, grande puissance, mais c'est pas grande qui est en jeu, mais c'est puissance. C'est l'idée d'une hégémonie qui peut se passer d'alliance. Et là, je vais reprendre le mot d'un professeur que j'ai eu, Hassan Salamé, qui est aujourd'hui en Libye, envoyé spécial, qui disait, mais il y a un excellent manuel de sciences politiques qui est le Robert. Et finalement, si on regarde alliance, c'est union de deux puissances qui s'engagent par un traité à se porter mutuellement secours en cas de guerre. Ben, il n'y a pas d'alliance. Il n'y a pas du tout d'alliance. Et alors, il y avait une alliance durable au Moyen-Orient qui est toujours entre la Syrie et l'Iran. Mais autrement, il n'y avait pas d'alliance. Et donc, les États-Unis, contrairement... Alors, il y a une coalition, finalement, de l'autre côté, entre la Russie, l'Iran et la Turquie. Une coalition, j'insiste vraiment. Pas d'alliance. Donc, les États-Unis pensaient, finalement, acte. C'est un constat... d'une incapacité à agir sur le terrain. Et on l'a très bien vu quand finalement ils se sont tournés vers les Kurdes plus par dépit qu'autre chose, quand ils ont pensé qu'ils pouvaient former leurs propres combattants sur le terrain syrien, que ça n'a pas fonctionné du tout. Donc après, il y a une cogestion du nord de la Syrie, nord-est avec les États-Unis, mais ce n'était pas du tout une alliance. Donc il y a un retrait qui s'inscrit dans l'incapacité des États-Unis à agir. C'est pas tant depuis l'échec de l'intervention de 2003, où effectivement les États-Unis déclarent qu'ils vont se retirer du Moyen-Orient car à ce grand pivot, mais ils en sont aussi incapables de le faire, tout en étant incapable de résoudre quoi que ce soit sur le terrain. Et finalement, les Kurdes se retrouvent dans cette situation où jusqu'au bout, ils ont espéré qu'il n'y aurait pas de retrait. Peut-être jusqu'en juin 2019, quand il y a eu une cogestion de la frontière nord avec des patrouilles mixtes. Et finalement, le retrait en octobre, et en tout cas l'intervention turque en octobre était certes précipitée, mais d'un certain côté attendue. C'est peut-être plus le timing qui a surpris. Et donc voilà, de ce point de vue-là, incapacité des États-Unis d'avoir noué des coalitions, contrairement à la Russie, et finalement ces puissances régionales que sont l'Iran et la Turquie qui se retrouvent dans des rôles d'arbitre. Et aussi, grand problème pour les Kurdes, c'est, comme vous l'avez dit, alors désintérêt des Européens qui voient la crise syrienne d'un point de vue qui revient au même, finalement, deux faces d'une même pièce qui est l'enjeu migratoire et sécuritaire. Donc sécuritaire, migratoire, maintenant c'est devenu la même chose avec une menace terroriste, etc. Et l'impossibilité finalement de reconnaître le rôle des Kurdes dans cette gestion. Parce que ça voudrait dire reconnaître quoi ? Des tribunaux kurdes qui jugeraient des combattants sur place ? C'est impossible d'un point de vue du droit international. Et finalement, cette impossibilité de le reconnaître, ce rôle des Kurdes, correspond finalement à un lâchage aussi, à terme. Donc voilà, ce jeu de puissances qui n'en sont plus finalement, qui conduit aussi à un lâchage des Kurdes.
Jordi Tegel, peut-être c'est un peu la suite de ce que vous évoquiez tout à l'heure, mais est-ce que ce lâchage était dans les cartes déjà dès le début ? C'est-à-dire qu'on savait que les États-Unis n'ont pas consolidé les bases de l'après-Daesh, hein, l'après-État islamique. Quel était, est-ce par naïveté que les Kurdes ont mené le combat contre l'État islamique ? Est-ce parce qu'ils se sont dit on fera monter les enchères et il sera toujours temps de s'allier soit avec les États-Unis s'ils restent, soit avec le régime de Damas si on a davantage de territoire et davantage de force, de cartes en main ? Comment vous expliquez-vous cette situation dans laquelle ils se trouvent ?
Moi, je dirais qu'en fait, c'est un peu la malédiction des acteurs non étatiques et minoritaires. C'est-à-dire qu'ils doivent s'appuyer sur... ils doivent toujours ouvrir toutes les possibilités, toutes les portes, mais ils ne sont pas maîtres du jeu. Parce que justement, déjà parce qu'ils n'ont pas d'État, ils n'ont pas toutes les ressources que les États ont, et donc ils doivent un peu toquer à toutes les portes, et puis au fur et à mesure de l'évolution des événements, il s'approche de l'un, de l'autre, et évidemment, après, avec toute la difficulté d'avoir un équilibre, parce que si on pense aux Kurdes syriens, ils étaient au même temps, ils avaient besoin de coopérer avec le régime syrien, avec Bachar al-Assad, avec les États-Unis, tout en sachant que la Russie était aussi derrière, donc... Alors, comment jongler dans cet équilibre ? C'est évidemment difficile. Et de nouveau, le fait de ne pas d'être un acteur non étatique fait que finalement, c'est eux qui payent le prix de la situation. Et en quelque sorte, on voit bien à travers l'histoire de la question kurde, mais pas uniquement, c'est que finalement... les Kurdes ont des possibilités, ont des opportunités quand les États sont faibles. Dès que les États sont plus forts ou ils s'allient entre eux, ben ce sont les Kurdes qui, on va dire, leur sphère de se rétrécit. Et donc, il y a toujours ce jeu-là, si on peut dire, de rétrécissement, mais aussi d'expansion, selon, en fait, la situation des États. Et actuellement, comme disait Jan, le gouvernement irakien est fragile. On a l'impression que les Kurdes irakiens, de nouveau, peuvent être importants. Mais qu'est-ce qui va arriver quand, de nouveau, le gouvernement sera plus fort ? L'inverse. Je suis désolé de pas être plus optimiste. Mais...
Pour changer encore une fois un petit peu de perspective, donc mettons-nous à la place des autorités turques. Qui crée donc un lien, vous nous direz s'il est vrai ou pas, entre les combattants kurdes de Syrie et le PKK, c'est-à-dire les Kurdes de Turquie, hein, ennemis jurés des Turcs, et qui ont, enfin voilà, la Turquie a l'impression que c'est une manière de permettre l'expansion de leurs ennemis dans le versant sud de la Turquie. Donc on parle beaucoup des ressorts, violents ou guerriers du président turc actuel, quoi. Mais en même temps, est-ce qu'un autre dirigeant turc à sa place aurait pu laisser s'établir cette situation sans broncher ? Est-ce que finalement, là aussi, on n'est pas dans une logique totalement évidente du point de vue de la Turquie ?
Bon, pour la Turquie considère le parti qui domine en fait le Kurdistan de Syrie, le PYD, comme une branche syrienne du PKK, et et en fait présente sa guerre contre le PKK, avec lequel elle est en guerre depuis 1984. Mais en même temps, comme vous avez dit, il faut quand même insister sur la raison d'État, sur la perception que l'État turc a des Kurdes. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'aller très loin, on n'a pas besoin d'en fait passer beaucoup de temps. Il suffit de voir la réaction de la Turquie quand il y a eu justement le référendum, l'organisation du référendum sur l'indépendance au Kurdistan d'Irak. La Turquie avait un discours extrêmement hostile, très agressif, en fait, contre les autorités kurdes, contre le parti qui domine le Kurdistan irakien, donc le PDK de Barzani, avec lequel la Turquie a depuis très longtemps des très très bonnes relations et a fait des accords sur le pétrole, sur le gaz, considéré en fait le Kurdistan irakien comme le seul allié après le printemps arabe, mais la réaction était la même. Donc je pense que du point de vue turc, bien sûr, il faut trouver un prétexte, il faut présenter la chose comme ça, mais en même temps, je pense qu'il faut être prudent par rapport à ce discours en fait de la Turquie. Et là, pour répondre à votre question, je pense qu'un autre dirigeant aurait très certainement, c'est difficile d'un peu faire des choses comme ça, mais très probablement il aurait suivi en fait la raison d'État, parce que dès sa création, la Turquie perçoit les Kurdes, le nationalisme kurde, comme un danger existentiel, à l'intérieur comme dans la région. Et donc ces réactions qu'on a ces derniers temps en Syrie, en Irak, ailleurs, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc il y avait toujours des mécanismes de coopération entre les différents États qui contrôlent une partie des territoires kurdes. Donc dans les années 30, il y avait des coopérations. Dans les années 90, après la guerre de Koweït, il y avait des mécanismes régionaux mis en place, donc de rencontres et de concertations. Et finalement, donc, après le référendum, on a très bien vu que tous ces mécanismes, ce n'est pas du passé, c'est tout à fait actuel. Et la Turquie, elle peut mettre de côté tous les autres intérêts et se concentrer essentiellement en fait, sur la question kurde, à l'intérieur comme à l'extérieur, qu'elle présente, qu'elle perçoit comme un danger existentiel. Et en ce qui concerne le PYD et le PKK, est-ce qu'il n'y a rien de vrai dans ce que la Turquie dit ? Oui, il y a des relations. Je pense que ni le PKK cache cela, ni le PYD, il y a des relations, même s'il est extrêmement difficile de réduire l'un à l'autre. Le PYD n'est pas le PKK, le PKK n'est pas le PYD, mais je pense qu'il faut être prudent. C'est pas ça la raison pour laquelle la Turquie attaque. La Turquie, en fait, conçoit... Récemment, j'ai lu les mémoires d'un diplomate turc qui disait qu'en fait, pour les dirigeants turcs, dès le début, il était évident que le seul danger pour l'État turc, c'était le séparatisme kurde, parce que le danger grec, arménien, religieux, tout ça avait été éliminé. Donc, sur cette question-là, il y a la raison d'État. Il y a malheureusement, donc, que ce soit les républicains, kémalistes, l'extrême droite, les islamistes, une certaine partie de la gauche qui se dit communiste, mais après, c'est difficile de voir dans quelle mesure elle est communiste, le réflexe elle-même. Donc, la question kurde, l'acteur kurde, le nationalisme kurde est perçu comme un danger à réprimer, à éliminer, où que ce soit.
Une dernière question, peut-être avant qu'on ouvre le débat. Mais donc, on voit tous ces pays qui sont fragilisés hein, pour toute une série de raisons. Et en même temps, on évoquait tout à l'heure la capacité pour les Kurdes, qui sont tout de même, ils n'ont pas d'État constitué, mais ils ont quand même des régions qui sont relativement solides, qui sont dans lesquelles il y a du gaz et du pétrole. Enfin voilà, il y a quand même une colonne vertébrale relativement solide hein, dans tous ces pays. Est-ce que dans le panorama actuel, justement, d'États fragilisés, etc., est-ce que finalement, ils arriveront quand même à tirer leur épingle du jeu vis-à-vis des autres pays présents ou par le biais, non pas d'alliances, mais de coalitions, etc. Un tout petit peu de prévision, là, de prédiction.
Bon, malheureusement, je vais être un peu pessimiste. Je me joins tout à fait à ce qui a été dit. Je pense qu'il y a il y a presque un double discours, parce qu'il y a une approche extrêmement statocentrée, c'est-à-dire que il y a un double discours en disant « Ah, mais les Kurdes sont abandonnés, etc. » même dans les chancelleries occidentales, mais n'ont rien fait. Parce qu'aussi, ils sont très, les États sont très jaloux de leurs prérogatives. Et aller dans le sens des Kurdes, ça, ça voudrait dire aussi, à l'interne, s'exposer à un risque. Si jamais il y aurait, je ne sais pas moi, il y a la Catalogne, ça pourrait créer un précédent de reconnaître des régions aussi dans leur propre pays. Donc il y a ça, donc il y a ce discours en Occident de soutien, mais en même temps les États sont très jaloux de leurs prérogatives et on retrouve ça dans la région, même s'ils ne sont pas d'accord entre eux. Par exemple, sauf erreur, c'était en 1974-75, il y a un accord entre l'Iran et l'Irak, entre Saddam Hussein et le Shah à l'époque, pour pouvoir marginaliser les Kurdes. Donc je pense que les États se mettront pour sauvegarder leurs prérogatives, arriveront toujours à s'entendre pour limiter cette influence. Et donc, ce qui reste, la possibilité qui reste, c'est de négocier après. Alors, les Kurdes en Syrie négocient. Il y a eu quand même un accord à Qamishli dernièrement. On a beaucoup parlé de la médiation russe, mais c'est surtout la médiation iranienne. Je pense qu'il ne faut pas du tout oublier ce rôle des Iraniens qui ont eux aussi un double discours, pour continuer sur ce double discours, parce qu'ils n'ont pas du tout la même politique envers les Kurdes en Irak, en Syrie, où ils ont vraiment joué un rôle de médiateur très important entre le régime de Damas et les Kurdes. Est-ce qu'eux appliquent dans la région du Kurdistan, où c'est vraiment une anomie totale, où il n'y a plus du tout de mouvement? Et donc, voilà, c'est ça les perspectives. Je pense qu'il n'y a rien à attendre des États, à part un discours de « c'est terrible ce qui arrive », mais ce prisme statocentré ne fait qu'une personne ne va le faire. Et puis aussi une dimension interne qui est très importante dans les États. C'est-à-dire que, ça je rejoins ce que disait Eugène Yilmaz, la répression... une opération militaire, c'est toujours très payant à l'interne. D'ailleurs, celui qu'on a présenté dans les médias comme un opposant, le maire d'Istanbul, a soutenu l'opération menée par la Turquie au Kurdistan. Donc c'est toujours aussi, pour un chef d'État en perte de vitesse, c'est quelque chose qui est très vieux, c'est presque une règle qu'on voit dans d'autres contextes, Thatcher contre les Malouines. Et ben là, contre les Kurdes, c'est toujours fédérateur de lancer une opération. Et pareil pour Bachar el-Assad, de dire « revenez dans le giron », et en même temps un discours de fermeté. Et je pense que ça va être très difficile, parce qu'il y aura une négociation finalement entre la reprise d'Idlib, donc lâchage de la Turquie, contre le lâchage des Kurdes. Donc c'est, moi, je suis très pessimiste. Voilà.
Oui, un dernier mot.
Ce qui est peut-être plus grave, c'est que souvent... qu'est-ce que font les Occidentaux? Est-ce que devraient soutenir... Mais quoi, exactement? Et en réalité, c'est que même l'autonomie pose problème. Parce qu'on peut imaginer qu'en réalité, ce qui pose problème, c'est la création d'un État kurde. Mais en réalité, beaucoup de Kurdes ne veulent même pas arriver jusque-là. Donc avec une autonomie, ils seraient déjà satisfaits. On a eu un semblant de porte ouverte en Turquie, avec le processus de paix qui s'est fermé par la suite. Les Kurdes de Syrie le disent un jour et l'autre aussi, ne veulent pas créer d'État kurde. Donc, ce qui est même surprenant, c'est cette fermeté face à une simple autonomie dans la région. Voilà.
Très bien, merci beaucoup. Je crois qu'un micro va circuler, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Je vous ici peut-être, monsieur.
Bonsoir, Dimitri Perret, merci beaucoup pour vos positions, votre présentation. Je voulais connaître un peu la position de chacun sur les situations politiques internes en Iran, en Irak et en, en Turquie où, malgré la répression incroyable, le HDP existe encore après plusieurs années, où les mouvements sociaux en Irak semblent assez forts. Et quel est le rôle des Kurdes dans ces mouvements sociaux en Irak, notamment ? Et est-ce qu'il y a un espoir d'avoir une forme un peu plus fédérative qui ressort de ces, par exemple, d'un Irak vraiment plurinational qui respecterait ces minorités linguistiques ou religieuses ou ethniques, si on doit les appeler comme ça. La situation était très dure une fois que Damas a sauté. On a bien vu ce qui s'est passé. L'Irak a été démoli. Est-ce que vous voyez un petit peu d'espoir dans ces mobilisations sociales ?
Donc une possibilité de front commun entre les aspirations des Kurdes et ce réveil des populations dans ces pays. Qu'est-ce que vous en dites ? Ce serait beau.
Oui, ça serait beau, c'est évident. Mais c'est difficile. C'est difficile. Donc, en Turquie, il y avait cet espoir, notamment avec les événements du parc Gezi. Beaucoup croyaient vraiment à quelque chose qui allait finalement fédérer les Kurdes, les Turcs, les conservateurs, les républicains, les autres. Mais finalement, comme Nicolas disait tout à l'heure, voilà, donc, il y a des stratégies, des élites, et il y a des nationalismes, il y a des marqueurs, il y a des éléments qui sont quand même présents, qui déterminent le comportement. Et finalement, on a vu qu'une fois que la situation devient difficile dans un pays, ces alliances potentielles éclatent assez vite, ne résistent pas. Et donc, en Turquie, il y avait cet espoir, il y avait vraiment un climat de paix. Les gens croyaient vraiment qu'on pouvait peut-être changer les choses, mais rapidement, avec la répression qui a commencé tout de suite avec le mouvement du parc Gezi, a aussi en fait touché les régions kurdes. Et rapidement, il y a eu les combats urbains et une nouvelle répression, et toute une répression assez agressive contre le HDP. Et qui a finalement affaibli le HDP, mais qui n'est toujours pas éliminé totalement du jeu politique. Mais il faut quand même rappeler que la vie est extrêmement difficile pour l'acteur légal kurde. Le gouvernement continue à chercher l'effondrement du mouvement kurde sur le plan légal et politique. Pour le moment, il n'y a pas encore eu l'effondrement, mais il a été extrêmement affaibli. En tout cas, ce qui est sûr, jusqu'aux élections municipales d'Istanbul, cet espoir d'une alliance de toutes ces forces différentes, kurdes, turques, gauche, était affaibli avec bien sûr la victoire à la municipalité d'Istanbul. Il y a eu un renouveau, mais encore une fois, comme Nicolas l'a rappelé, il y a une opération contre Afrin, une deuxième opération contre la Java. Et là aussi, on a vu qu'en fait, c'est extrêmement difficile, toutes ces forces politiques qui peuvent avoir des alliances conjoncturelles sont quand même marquées par des identités, par des nationalismes, par d'autres sensibilités. Il y a des difficultés, mais le potentiel est relativement grand en Turquie. L'acteur kurde est affaibli, mais il y a toujours ce potentiel. Et une alliance était tout à fait possible, peut-être en 2013, mais après, on a vu qu'il y a quand même beaucoup de difficultés. Parce que les partis d'opposition continuent à être extrêmement conservateurs sur toutes les réformes possibles, sur la langue kurde, les droits politiques kurdes et autres. En ce qui concerne l'Irak, il faut quand même rappeler qu'il y a... C'est un cadre différent. Donc, on n'est pas dans une situation comparable à la Turquie. Il n'y a pas d'assimilation. Il y a une certaine séparation entre les Kurdes et les Arabes, et cette séparation, elle est devenue quasiment une rupture depuis 1991. Donc l'espace kurde irakien et l'espace irakien sur le plan politique, culturel et autres, c'est vraiment caractérisé par une rupture. Il n'y a pas beaucoup de... Je ne suis pas très sûr si les Kurdes sont très nombreux dans ces mouvements, d'autant plus que moi, je continue à suivre un peu les événements. Les Kurdes sont en fait plutôt craignent pas mal des retombées négatives de ces mobilisations, parce que ces mobilisations, l'une des revendications de ces mobilisations en Irak, c'est un changement de la constitution. Et les Kurdes ne veulent absolument pas que ce changement, en fait, aboutisse à un changement de leur statut d'autonomie. Donc il regarde avec beaucoup de prudence. Pour le moment, il ne joue pas un rôle très important. En Iran, les Kurdes sont tout à fait présents dans les mobilisations. Et on a eu des rapports tout à fait sérieux qui ont montré que les Kurdes étaient ciblés de manière tout à fait précise. Il y a eu beaucoup d'assassinats contre les Kurdes. Et cela, en fait, cette répression un peu diffuse vise aussi les Kurdes en Iran en ce qui concerne les pendaisons, les arrestations ou des assassinats dans certains cas. Il y a une répression. Mais encore une fois, donc, c'est un espace où on peut parler d'une certaine, séparation entre les mobilisations impliquant les Kurdes et le reste du pays. D'ailleurs, actuellement, les autres minorités en Irak sont aussi un peu, en Iran, pardon, sont affectées par cela. Mais les Kurdes restent quand même un peu prudents dans toutes les autres mobilisations. Beaucoup plus sont concernés, en fait, en ce qui concerne les droits politiques, culturels des Kurdes. Et en ce qui concerne la Syrie, on a vu dans un premier temps, les Kurdes étaient actifs dans les mobilisations. Mais rapidement, en fait, quand le conflit syrien s'est régionalisé, les États se sont impliqués, l'opposition syrienne était fortement influencée par la Syrie et les Kurdes se sont en fait séparés ou ont pris une certaine distance par rapport à l'opposition syrienne. Et puis maintenant, on peut aussi parler d'une rupture en ce qui concerne la Syrie entre les Kurdes et le reste de l'espace et en ce qui concerne les mobilisations aussi. Mais encore une fois, donc les changements sont tout à fait possibles. C'est le Moyen-Orient, les alliances changent. Les pays changent, tout change du jour au lendemain. Il ne faut rien exclure.
Vous vouliez intervenir sur cette question ou...
Alors, je vais parler un petit peu en historien. Non, mais pour dire que les possibilités de coopération entre le Kurde et les autres mouvements d'opposition ont été... Voilà, au cours de l'histoire, ont été possibles, notamment dans les années 50 à 70, le mouvement de gauche, où les Kurdes étaient très actifs à l'époque, mais qui finalement se sont, ont pris des distances et ont créé leur propre organisation, qui était la même chose, de gauche, mais kurde. Et plus tard, il y a eu d'autres épisodes où il y a eu toujours cette sorte de non-rencontre, c'est-à-dire, si je pense aux Kurdes iraniens, avec le mouvement vert de 2009, c'est un mouvement qui était essentiellement à la capitale, à Téhéran, et ils ont raté l'occasion justement de parler à la périphérie et s'allier et faire une sorte de coalition avec le mouvement kurde. Les Kurdes n'ont pas bougé, et ça a été, je dirais, cet échec de ne pas penser à la périphérie, c'était une des raisons qui a fait que le mouvement vert en Iran a échoué. Pour ce qui est de la Syrie, peut-être là, je donnerais une vision un peu différente, c'est que entre 2011 et 2012, il y a certains mouvements kurdes qui ont participé de mobilisations, donc tous les vendredis, il y avait des mobilisations dans les principales villes kurdes. Mais le principal acteur dont on parle tout le temps, le PYD, à l'époque a dit « ceci n'est pas notre révolution ». Et ils ont opté pour se maintenir neutre, en disant on ne va pas se mobiliser ni contre le régime, ni contre les opposants, les manifestants, mais on reste à l'écart. Et là aussi, bon, après, on est toujours plus intelligent après coup, est-ce qu'ils auraient dû s'allier ou pas? Mais en tout cas, ils ne l'ont pas fait. Et ça a été peut-être aussi une des raisons pour lesquelles le mouvement de 2011-2012 en Syrie a échoué.
Très bien. On dit souvent que c'est la première question qui est difficile, mais c'est vraiment la deuxième en vérité. Donc on passe directement à la troisième question.
Bonsoir. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette conférence. Je suis Amirzan, kurde d'Iran. Et par rapport à la situation au Moyen-Orient, j'aimerais savoir l'influence de la mondialisation de la culture sur la culture du kurde, sûrement la culture, les patrimoines culturels matériels, immatériels et aussi naturels. Ça sera comment? Merci beaucoup.
Une vaste, vaste question.
Alors, il y a toujours le débat, est-ce que la mondialisation est bonne ou pas, et l'impact de cette mondialisation. clairement, la culture kurde, elle est aussi mondialisée, enfin, dans le sens où elle participe de cette mondialisation. Si on écoute la musique kurde, on le voit très bien, hein, avec toutes les influences venues d'ailleurs, les mélanges, la musique kurde avec le flamenco, il y a beaucoup de groupes qui se sont lancés, ou des groupes, les musiciens eux-mêmes ne sont plus des groupes de Kurdes seulement, il y a des gens de partout. Alors, est-ce que c'est mauvais pour la culture kurde ? En même temps, il y a un public européen ou d'ailleurs qui maintenant écoute la musique kurde à cause de cette collaboration. Après, pour la littérature, c'est un petit peu plus, je dirais, plus compliqué. Il y a moins. La littérature kurde arrive moins à toucher peut-être un public non kurde. Et c'est pas seulement une question de traduction, c'est aussi peut-être une manière d'écrire qui n'a pas encore trouvé de succès. Mais le cinéma, par exemple, le cinéma kurde, rencontre de plus en plus un succès auprès de publics non kurdes, que ce soit Gobadi, vous le connaissez.
L'authenticité d'une culture, c'est toujours un terrain très très dangereux, hein, de savoir est-ce qu'une culture peut se développer à l'abri de l'extérieur. Mais moi, j'aurais peut-être une question connexe avec donc l'image qu'ont les Kurdes, notamment à travers leur combat. Il y a aussi un côté très très romantique, hein, très féministe et puis moderne. On passe son temps à danser après les combats et puis il y a quand même il y a beaucoup de fans. Ils sont pas très efficaces pour ce qui est d'aider concrètement le peuple kurde peut-être, mais il y a aussi toute cette image justement empreinte de romantisme. Est-ce que ça c'est d'abord, est-ce que ça correspond à une certaine réalité, cette image qu'on a d'ici ? Et est-ce que c'est plutôt une bonne chose ou est-ce qu'au contraire, on est en train de travestir la réalité de cette lutte et de ces situations quotidiennes ?
Cette image, elle correspond à une certaine réalité. Cela, il faut quand même admettre. Mais il ne faut quand même pas oublier que cette image, donc, elle est choisie par certaines. Elle est présentée à un certain public particulier. Donc, dans ce sens-là, oui, il y a quelque chose de subjectif, ça, il ne faut quand même pas nier. Mais c'est une réalité. Je pense que vous avez surtout pensé aux combattantes femmes qui occupent la une des journaux. Bien sûr, donc, les médias européens occidentaux ont voulu donner une image qui parle à l'opinion publique européenne, mais je pense qu'il n'y a pas eu de... En ce qui concerne, en tout cas, les Kurdes de Syrie et les combattants du PKK, il n'y a pas eu de manipulation, il n'y a pas eu de mensonge. Ces combattantes existent depuis très longtemps dans les montagnes, dans les villes kurdes, participent à des combats, ont payé un prix extrêmement lourd. Beaucoup sont tués, beaucoup sont en fait capturés, humiliés, et dans certains cas, même leurs corps sont exposés. Donc c'est une triste réalité qui existe. Mais il est aussi vrai que les Kurdes ont aussi saisi peut-être cette opportunité pour pouvoir en fait s'adresser un peu plus à l'opinion publique occidentale. Mais je pense que il faut quand même, je dirais pas qu'il y a une certaine naïveté de la part de l'opinion publique occidentale et qu'on est manipulé et qu'en réalité tout ça n'existe pas, tout est tourné dans des studios. Non, ça c'est absolument faux. C'est une réalité, mais il est vrai que on a souligné, on a insisté sur cela. Et puis voilà, donc les danses. L'idéologie, tout cela existe, aussi bizarre paraît-il. Donc cela existe, c'était l'une des motivations. Il ne faut quand même pas oublier que tous ces gens qui ont combattu Daesh ont une idéologie, ont des motivations, ont des choses qui les motivent. Peut-être nous, on trouverait ça un peu naïf, mais c'est une vérité. Il faut quand même pas nier cela. Mais il est vrai que, en tout cas, les Kurdes, les combattants kurdes, les organisations kurdes, ont très bien saisi cette occasion pour promouvoir un peu leur image, leur demande, essayer de donner, comme tout à l'heure, peut-être Nicolas, il voulait dire ça, en tout cas, on essaie de donner un contenu stratégique, politique, à leur coopération avec les Américains. Cela n'a pas marché, mais en tout cas, il y a eu cette tentative. Et peut-être juste, je reviendrai juste sur une notion, après je laisse. parce que le mot a été évoqué. Au début aussi, on a parlé de la naïveté des Kurdes. Moi, je pense qu'il faut insister sur un élément. On parle de lâchage des Kurdes, donc on les a abandonnés, on les a... Ça laisse penser qu'ils ont été utilisés. Et puis, au moment où ils étaient plus utiles, ils ont été lâchés. Mais je pense qu'il faut rappeler que cette guerre, c'était la guerre des Kurdes. Les Kurdes devaient faire cette guerre, parce que les Kurdes ont été attaqués, on a détruit leur maison, leur village, on a enlevé leurs filles, on les a vendues dans les marchés aux esclaves. Les Kurdes devaient faire cette guerre. Donc, il ne faut pas penser que c'est des gens qui n'ont aucune pensée critique, stratégique, qui n'ont pas de demande, aucun intérêt, et puis qu'un jour, ils se mettent tous derrière Donald Trump, pour les Américains, et puis ils vont comme ça. Ils avaient leur raison, c'était leur guerre, ils devaient faire cette guerre. Je ne crois pas qu'il y avait une certaine naïveté sur ce plan-là, mais voilà, donc ça c'est la réalité de power politics, des relations internationales. Les acteurs étatiques ont beaucoup de possibilités, beaucoup de choix, et choisissent pas selon l'acteur, son visage, son histoire, sa langue, mais en fonction de leurs intérêts. Donc c'était comme ça que ça se termine. Voilà.
Je voudrais juste ajouter une toute petite note par rapport à votre question qui est importante. Je pense qu'il faut prendre en compte le poids, enfin, la question démographique. C'est-à-dire qu'en Turquie, il y a, en tout cas dans à la frontière, etc., il y a des populations syriennes très importantes qui sont venues remplacer aussi des populations kurdes, et les autorités turques jouent avec ce facteur démographique pour tout ça. Il y a des villes qui deviennent en Turquie qui deviennent syriennes, tout simplement. Donc à mesure, il y a une identité kurde qui est aussi diluée. Et ce facteur démographique, certainement, qui sera utilisé en retour quand il y aura à terme un retour, certainement pas complet, mais en partie des réfugiés syriens de Turquie qui rentreront en Syrie dans des régions qui étaient à prédominance kurde, en tout cas à forte minorité, peut-être pas à majorité, mais minorité kurde, qui seront remodelées démographiquement. Et c'est déjà le cas en Syrie, il y a quand même beaucoup de déplacements de population, et donc cette question-là démographique et ces changements d'échelle de population par rapport à ce qu'on pourrait appeler une identité kurde, même s'il ne faut pas l'essentialiser, elle est importante effectivement à prendre en compte, que ce soit des deux côtés de la frontière.
Monsieur, derrière.
Merci pour votre intervention. J'aurais juste une question concernant, en fait, vous avez parlé du peuple kurde face aux grandes puissances, mais j'aurais cette question plus interne, dans le sens où justement, il y aurait aussi des divergences au sein du peuple kurde, et à quel point ça affecterait justement cette mobilisation kurde dans les différents pays, notamment par exemple en Turquie, comme vous l'avez dit, Can Yılmaz, les partis communistes, les partis de gauche turcs mettent en avant peut-être un communisme, mais un communisme qui serait plutôt peut-être nationaliste, si on peut dire ça comme ça. Et comment justement cette gauche turque voit peut-être cette montée des Kurdes, et en même temps, quelles seraient ces divergences au sein des mobilisations kurdes? Merci.
Donc effectivement, on a un tout petit peu évoqué déjà la question de la Turquie et la représentation le combat kurde peut devenir un combat national de la gauche turque, hein, d'une certaine manière, comme c'était en voie. Mais la question des divisions est aussi intéressante, non seulement dans le cas turc, mais dans cette variété de situations. Kurde, hein. On dit souvent qu'on est dans une soupe de sigles, tellement il y a de partis différents et de divisions qui peuvent être ou nationales ou tribales, etc. Quoi. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est un handicap initial et insurmontable dans le camp kurde? Tout ça a été aussi approfondi ensuite par les intérêts des nations, hein, qui sont présents. Mais est-ce que ça, c'est vraiment une part quasi identitaire aussi de cette identité kurde.
Peut-être pour... C'est le cas syrien que je connais le mieux, donc je pense pas qu'il y ait une part identitaire, mais effectivement, il faut voir des différences. Si on prend le cas syrien, mais c'est plutôt inhérent au régime, il y a toujours cette dimension de coopter et réprimer. Donc, cooptation d'éléments importants kurdes sur lesquels on pourrait s'appuyer, et en même temps répression, comme il y a eu une dernière répression, c'était en 2004, très importante, avec des pillages, etc. Et il faut faire la différence entre certaines familles ou notables qui sont cooptées, aussi, il y avait des religieux très importants qui étaient d'origine kurde, qui étaient cooptés par le régime. Le régime s'appuie aussi sur certaines familles notables, tribus kurdes, etc., qui, au fur et à mesure de l'évolution de la situation, n'étaient pas d'accord entre elles. Et encore maintenant, elles ne sont pas d'accord entre elles sur certaines stratégies adoptées par rapport au régime, etc. Donc, il y a aussi la différence entre ceux qui se trouvent dans la capitale, qui ont été cooptés, ceux qui sont toujours dans la région de Qamishli et autres, et même à l'intérieur de ce qu'on appelle le Rojava, il y a des différences, mais ce n'est pas lié à une forme identitaire, mais plus à des positionnements politiques, à des opportunités et à des divergences aussi par rapport aux acteurs avec lesquels ils doivent composer sur le terrain. Maintenant, il y a quand même une forme d'autonomie, en tout cas administrative, qui est préservée pour certains services à la population, pour des écoles, etc. Mais il y a quand même ces divergences sur, par rapport à la suite, comment se positionner, et ça crée des tensions. Donc oui, il n'y a pas un front uni entre les acteurs kurdes sur le terrain par rapport à ces questions de positionnement de politique. Qui, encore une fois, est si lié à... Mais ça, ce n'est pas inhérent aux Kurdes, mais au régime de Damas, qui a toujours cette stratégie, double stratégie de répression-cooptation, qui produit des effets sur les acteurs.
Dans le cas irakien, peut-être, puisqu'on en parlait tout à l'heure, cette division sont apparues très, très clairement lors de l'organisation du référendum en 2017.
Oui, dans le cas des Kurdes irakiennes également. Donc, les divisions politiques, comme dans toutes les autres parties, existent depuis très longtemps. D'ailleurs, 2017, ce n'était pas la première fois qu'en fait, ces divisions apparaissaient. Il y a eu des guerres, il y a eu des divisions dans les années 60, il y a eu des guerres, il y a une guerre civile après la création de l'autonomie. Donc les divisions existent. Mais je voulais juste peut-être rappeler qu'il ne faut quand même pas oublier que les Kurdes... Il ne faut pas essentialiser. En fait, toutes les sociétés sont divisées. Hein. Donc, à Genève, on a une idée des Neuchâtelois, des gens de Neuchâtel. Les Jurassiennes représentent une chose. Les Kurdes ont leur division, comme tous les autres peuples. Mais il faut souligner un élément important. Les Kurdes ont été divisés. Et les Kurdes n'ont pas eu d'État. Donc, ils ont toutes les divisions, tous ces éléments en fait, qui caractérisaient le monde pré-État-nation existent, continuent à exister. Donc après, il ne faut pas du tout en fait, utiliser cela pour dire qu'ils méritent moins parce qu'ils ont toutes ces divisions. Bon, ils ont toutes ces divisions parce que, d'une part, ils ont été divisés, d'autre part, ils n'ont pas eu l'occasion, les moyens, les mécanismes pour éliminer toutes ces divisions, comme on a fait ailleurs. Je pense qu'il ne faut pas essentialiser non plus, mais il ne faut pas nier non plus donc, les divisions politiques, linguistiques, religieuses et autres. Entre les Kurdes de différents États à l'intérieur de chaque parti. Et comme Jordi l'a rappelé tout à l'heure, donc sur le plan régional, mais aussi national, l'acteur kurde est un acteur faible. Donc il a une très, très peu de marge de manœuvre. Et pour élargir cette marge de manœuvre, il est obligé de faire des alliances. Alors, ces acteurs kurdes qui ont des projets, des idéologies, des socialisations différentes ont aussi des alliances pour pouvoir en fait exister, pour pouvoir maintenir leur organisation, promouvoir un peu leur projet politique. Ils ont des alliances. Dans certains cas, en fait, ces alliances débouchent aussi sur des conflits, sur des guerres civiles. Mais je pense que ce n'est pas une spécificité kurde. Et chez les Kurdes, cela devient peut-être un peu plus fort parce que, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est aussi lié à cette structure. Parce que voilà, on a divisé un peuple, sa zone de peuplement. Il y a une coopération entre les États pour réprimer, pour les empêcher, pour les maintenir. Et il y a surtout absence de perspective. Donc même pour l'autonomie, même pour les droits politiques, il n'y a aucune perspective. Et quand il y a en fait toutes ces conditions se réunissent, bah, que faire ? Donc malheureusement, un certain nombre d'acteurs, comme on l'a vu en 2017, après le référendum, pour mettre l'accent sur leurs propres intérêts ou sur les intérêts de leur propre organisation, parce que dans cette situation de difficulté, c'est aussi une stratégie de survie. Donc tout cela aggrave un peu la situation. Mais quand il y a des perspectives, il faut quand même rappeler cela, quand il y a des perspectives, quand il y a un certain soutien, ces acteurs en conflit se réunissent. Front commun, comme on l'a vu par exemple il y a quelques semaines au Parlement irakien, quand il y a eu le vote sur le départ américain, les Kurdes qui étaient en conflit sur Kirkuk et ailleurs, on agit de la même façon. Donc il y a aussi bien sûr des coopérations, mais bien sûr c'est la structure qui fait qu'on voit beaucoup plus les divisions, parce que c'est un acteur extrêmement faible, marginalisé. Et les États agissent, jouent sur ce plan. Donc il suffit de voir en Turquie, depuis qu'il y a la reprise de la répression contre les Kurdes, on voit comment en fait le gouvernement fait tout pour privilégier certains acteurs au détriment de HDP ou bien au détriment des nationalistes. Donc ce n'est pas quelque chose qui a une seule raison qui serait liée en fait, à l'identité kurde ou à la réalité des Kurdes.
Historiquement, peut-être aussi quelques mots, parce que les pays de cette région sont passés maîtres aussi pour utiliser les Kurdes dans leur lutte, soit bilatérale, soit régionale, etc.
Alors, je vais peut-être donner une anecdote plutôt du domaine culturel. Vous savez, la langue kurde existe, n'est-ce pas ? Mais elle est écrite en combien de alphabets ? Vous direz 1, 2. Les jeux sont faits. Donc latin, arabe, arabo-iranien, persan, cyrillique. 4 alphabets pour la même langue. Et bon, c'est parce qu'ils ne savent pas se mettre d'accord. Ben, justement, c'est pour répondre à votre question, c'est que entre les années 20 et 30, les États ont tout fait justement pour qu'ils ne puissent pas se communiquer de manière écrite. Et donc, moi, par exemple, dans mes recherches, j'ai trouvé des documents, des lettres échangées entre les Anglais et les Français, et où justement. En Syrie, on a commencé à écrire le kurde, on a standardisé la langue en alphabet latin, et les Anglais ont dit oh non, 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 on ne veut pas qu'ils communiquent avec le kurde irakien, parce que s'ils commencent à s'échanger des idées, des journaux, etc., ça c'est dangereux. Donc il faut que les kurdes irakiens continuent à écrire avec l'alphabet arabe. Comme ça, la communication par écrit, au moins, elle est interrompue. Et la même chose pour l'Arménie soviétique, où on apprenait le kurde à l'école, mais en alphabet cyrillique, etc. etc. Donc c'est juste un exemple de, en même temps, cette diversité qui, elle, existe, c'est vrai, mais en même temps, qui a été renforcée clairement par les États.
Oui, je veux rebondir sur ces diversités politiques, justement, parce que, d'accord, enfin, j'ai bien compris qu'il n'y avait pas d'unité d'un groupe kurde, il n'y avait pas d'unité politique ou même... démographique, mais enfin, il y a quelque chose qui revient quand même assez souvent. Je pense que c'est quand même la boussole qui est un peu plus à gauche, d'une manière générale. Le HDP en Turquie est un parti quand même assez à gauche, qui s'est d'ailleurs turquifié sur des questions, qui va parler d'écologie, de féminisme, des choses comme ça. Et enfin, on a vu aussi toutes ces petites autonomies. Bah, Rojava, c'était des expériences en fait finalement de gauche, etc. Est-ce que je connais pas du tout le cas iranien ni irakien. Est-ce que c'est quelque chose on va dire propre au peuple kurde. Est-ce qu'il y a des choses qui expliquent ça ou c'est propre finalement à un groupe qui est persécuté depuis très longtemps et qui doit s'organiser enfin, quel est le lien en fait de cette marque à gauche chez les Kurdes ?
Le peuple kurde est-il de gauche ?
Alors effectivement, c'est un mystère. Et c'est un mystère dans le sens où, à la fin des années 80, on peut dire que la gauche au Moyen-Orient était en déclin. Alors que tous les mouvements kurdes se réclamaient justement des idéologies de gauche. Pourquoi ? Alors que justement c'était le mouvement islamiste qui prenait l'ascenseur dans la région et pas au Kurdistan. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mouvement, de partis politiques kurdes islamistes, il y en a, mais ils sont quand même minoritaires. Alors, je dirais que ça explique un peu. En Iran, par exemple, évidemment, le régime est chiite, et donc l'opposition kurde s'appuyait sur le fait plutôt d'être sunnite ou laïque. Et donc, il n'y a pas eu une influence très grande, justement, de la révolution islamique iranienne sur les Kurdes, parce qu'ils se retrouvaient dans une situation plutôt d'opposition. Donc, voilà, peut-être ce serait un peu long d'aller cas par cas, mais c'est vrai, c'est quand même une exception. Cela dit, il y a quand même un processus d'islamisation du Moyen-Orient qui est clair et qui a aussi touché la société kurde. Moi, ça fait 20 ans que j'y vais régulièrement. J'ai pu le voir visuel. Il y a une visibilité de l'islam qui n'était pas aussi présente il y a 20 ans en arrière.
Ça, c'est même chez les militants, pardon.
Est-ce que c'est positif ou négatif ? Ça, je ne vais pas entrer. Mais c'est une réalité. Et c'est des mouvements plutôt conservateurs. Donc, il y a effectivement, je dirais encore, le mouvement kurde en général est plutôt ancré à gauche, mais il y a quand même peut-être maintenant une plus grande diversité que par le passé.
Je voulais demander si même chez les militants, en fait, ça, ou plutôt dans le peuple kurde, ce côté islamisation.
Alors, les mouvements les plus actifs continuent d'être ancrés à gauche. Ça c'est clair. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais avec justement pour les Kurdes de Turquie qui partagent justement le mouvement principal, des idées avec le Kurde de Syrie, ces idées de féminisme, intermondialisme, dépassement du cadre national. Hein, ils disent l'État-nation, c'est fini, c'est bourgeois, il faut aller vers quelque chose d'autre. Donc, et qui est perçu par une partie de la gauche européenne comme un modèle ou comme une utopie pour la gauche ailleurs. Donc c'est vrai que ça continue, cet ancrage.
On peut aussi répondre presque par la négative, c'est-à-dire que ces mouvements de gauche demeurent parce qu'il faut le mettre en miroir de la disparition des autres, des contre-performances des partis de gauche et les répressions des partis communistes, que ce soit en Irak et surtout en Syrie, l'emprisonnement systématique, etc. Donc il y avait des partis communistes aussi importants qui ont été systématiquement réprimés. Et aussi la fin de la guerre froide, ces partis-là ont aussi décéléré, ces partis communistes, et aussi certains en voyant leur contre-performance se tourner vers les régimes autoritaires. Et ça, alors pas forcément en Irak ou en Syrie, mais ça les a fortement décrédibilisés. Et aussi, il faut voir il faudrait faire une sociologie politique plus fine, mais la représentation des Kurdes dans les partis communistes, que ce soit en Irak ou en Syrie, qui n'était pas nulle en fait. Il y en avait aussi. Donc, il faudrait vraiment regarder ça plus finement pour voir ceux qui mitaient à gauche hors d'un cadre communautaire. Je pense qu'il faudrait regarder ça plus en détail, mais ce marquage à gauche est d'autant plus fort qu'il se apparaît dans un contexte de contre-performance des partis politiques. Oui.
Un élément de plus. quand on parle de cet ancrage en fait des acteurs kurdes en ce qui concerne la gauche, il faut quand même insister, comme Jordi l'a dit d'ailleurs, qu'il s'agit du nationalisme, des nationalistes kurdes, parce qu'il existe des mouvements islamistes, ils sont extrêmement marginaux, ils n'arrivent pas à dominer l'espace politique. En ce qui concerne notamment l'Irak, les milieux conservateurs étaient influents, continuent à rester, mais à partir dans les années 70, eux-mêmes en fait, ont dû adopter certaines techniques de gauche, un certain vocabulaire de la gauche. En Turquie, l'un des premiers partis nationalistes kurdes qui a vu le jour après les années 50, c'était un parti conservateur. Mais très rapidement, il a été dépassé par les mouvements de gauche. En fait, la gauche elle a rapidement commencé à dominer l'espace politique kurde. En Iran également, je pense qu'il y a quelque chose qui est aussi lié à ce rapport du nationalisme ou des nationalistes kurdes aux États. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que tous ces États, qu'ils soient kémalistes ou pahlavistes ou baasistes ou d'autres, utilisent l'islam pour marginaliser le nationalisme kurde. C'est l'une des techniques qui est utilisée depuis pas mal de temps pour marginaliser les acteurs kurdes. Et dans l'imaginaire kurde également, quand on parle de la fraternité des musulmans, l'islam, la paix, les Kurdes se posent des questions. Ils disent, mais l'Irak, c'est musulman, la Turquie, c'est des musulmans, l'Iran, c'est une république islamique en plus. Là aussi, il y a un rapport assez critique, assez conflictuel, en tout cas en ce qui concerne les nationalistes. Et puis l'élément, en fait, tout ce qui est lié à la gauche est aussi lié à cet élément peut-être global, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que l'Iran, pendant très longtemps, était un allié de l'Occident. Donc pour avoir un discours, pour créer un contre-discours contre l'Iran, il faut se situer plutôt à gauche. En Turquie, on a exactement le même phénomène. Donc le mouvement national se rend compte que la Turquie, c'est un pays qui est allié, quand même, membre de l'OTAN, allié à l'Occident. Donc il faut avoir, pour avoir une certaine légitimité, pour pouvoir s'adresser à un public, il faut construire un contre-discours. Je pense que tous ces éléments-là ont aussi jouer un rôle important. Et puis la question la plus importante, à mon avis, l'élément le plus important, c'est les transformations de la société kurde, parce que donc il y a une urbanisation, il y a eu en fait plusieurs générations d'activistes qui se sont succédés, il y a une transmission de savoir-faire, des idéologies, des techniques, de discours, et tout cela a fait que en fait les Kurdes ils sont aujourd'hui comme ils sont, en tout cas en ce qui concerne les nationalistes.
Monsieur Yilmaz, vous avez à raison de parler du fait que les revendications des Kurdes représentent un danger existentiel aux yeux de l'État turc. C'est vrai, historiquement, je dirais même que non seulement pour l'État turc, mais beaucoup de Turcs dont je suis représentent un danger. Pas pour moi, mais beaucoup, beaucoup de Turcs. C'est vrai parce qu'on a hérité cette idée, cet état d'âme de l'époque des fêtes de l'Empire ottoman. Les Turcs pensent que l'Empire ottoman est défait en raison des revendications des minorités. Donc, d'où l'idée donc, de mettre une politique de répression aussi à l'époque de la République turque moderne contre n'importe quelle revendication de n'importe quelle minorité. C'est vrai qu'on pourrait comprendre la politique actuelle de l'État turc, donc Erdogan, qui est affreuse, qui est inacceptable, qui est une politique de répression tous azimuts à la garde des Kurdes. Mais il s'est quand même passé quelque chose en 2013-2015 dans la politique de l'État turc et de Erdogan, qui n'est pas linéaire. C'est parce que même Erdogan, il a mis en place un processus de paix avec les Kurdes de Turquie, qui a duré de 2013 jusqu'à 2015, mais aussi avec les Kurdes de Syrie, en leur offrant de lutter ensemble contre le régime syrien. Alors, ça, c'est quelque part, c'est une parenthèse de la tradition de la politique turque à l'égard des Kurdes, C'est une rupture à ce moment-là. On croyait que voilà, il va se passer quelque chose de bien. L'État turc va changer sa politique à l'égard des Kurdes. Mais c'est pas abouti à. C'était un échec total. Comment expliquez-vous cette motivation de Erdogan et de l'État turc de se distinguer de la politique traditionnelle turque à la guerre des Kurdes en mettant un processus de paix et même en offrant de travailler ensemble avec les Kurdes syriens contre le régime syrien?
Merci beaucoup pour votre question. Vous avez bien fait d'ailleurs de faire cette remarque, parce qu'aujourd'hui on a une image extrêmement négative de Erdogan et de l'AKP et de la Turquie de l'AKP. Mais il ne faut quand même pas oublier qu'il y a eu une période où en fait l'AKP incarnait le changement et l'espoir, et l'AKP a fait des réformes en fait qui étaient révolutionnaires dans un premier temps. Et parmi ces réformes, parmi ces changements, parmi ces espoirs, il y avait aussi l'idée de trouver une solution politique à la question kurde. Ça a été en 2005, Erdogan il a fait un discours pour dire que voilà, il y a eu des injustices contre les Kurdes existent, et qu'il il a presque présenté ses excuses pour ce qui s'est passé. Mais des témoignages montrent que tout de suite après, quand il a pris l'avion, il a demandé à ses collègues ou à ses amis s'il n'a pas exagéré. Si ce n'était pas un peu trop exagéré, il est allé peut-être trop loin. Mais voilà, malgré tout, il faut quand même rappeler qu'il y a eu des tentatives. Et à partir de 2009, on a découvert qu'il y avait des négociations secrètes entre le gouvernement, en tout cas les renseignements, et le PKK. Je pense qu'aujourd'hui, on peut peut-être avoir une certaine réponse, une certaine lecture. À l'époque, c'était extrêmement difficile parce que cette ouverture, ces réformes, en fait, étaient parmi d'autres ouvertures et d'autres réformes. C'était extrêmement difficile de juger. Mais aujourd'hui, on a la possibilité peut-être d'apporter une réponse. Je pense que tout cela, en fait, était lié à son objectif de transformer la Turquie en un leader régional, créer ce qu'ils appelaient le néo-ottomanisme, ou mettre en œuvre le néo-ottomanisme, pour que la Turquie domine l'espace qui était autrefois sous la domination ottomane. Et pour cela, ils se sont rendus compte qu'il faut peut-être mettre un peu d'ordre à l'intérieur, il faut stabiliser l'intérieur, sinon on ne peut pas agir sur le plan régional ni ailleurs. Et il y avait une volonté de proposer une sorte de partenariat aux Kurdes pour que en fait, les Kurdes se soumettent à cet objectif de Erdogan ou de la Turquie d'Erdogan. Ainsi, il y a eu des tentatives pour trouver une certaine solution, mais déjà à l'époque, il y avait des critiques. Vous vous souvenez très certainement, il y avait beaucoup d'intellectuels, beaucoup de politiciens, beaucoup d'acteurs tout à fait critiques qui disaient que, mais tout en parlant de l'ouverture, tout en parlant d'une solution de la question kurde, Erdogan et la Turquie sont concentrés sur la lutte armée du PKK. Pourquoi on ne fait pas de réforme pour les Kurdes, changement des noms de villages, de rues, la langue kurde ou d'autres droits? Pourquoi il faut négocier? Et finalement, en fait, tous ces éléments montrent qu'il y avait très clairement l'objectif de régler cette question d'une façon ou l'autre pour pouvoir avoir une marge de manœuvre plus importante dans la région. Pourquoi pas s'en servir également de l'acteur kurde, parce qu'ils ont une lecture de la région, ils sont tout à fait conscients que voilà, il faut avoir des acteurs, parce qu'il faut avoir des proxys ou des acteurs locaux pour pouvoir agir dans la région. Et je pense que cet élément n'était pas absent. Et ce n'est pas pour rien que tout cela a été stoppé au moment où Erdogan et l'AKP se sont rendus compte que cette ouverture, cette recherche d'une solution, aussi limitée soit-elle, profite aux acteurs kurdes, sur le plan régional et national. Parce que sur le plan régional, les Kurdes d'Irak, les Kurdes de Syrie ont trouvé une marge de manœuvre en absence de la Turquie. Et on fait des gains tout à fait importants, on fait avancer leur agenda. La Turquie, elle a constaté cela. Il y a eu un renforcement de l'acteur kurde sur le plan régional, et cela est aussi vrai sur le plan national. Donc l'AKP, Erdogan se sont rendus compte que cette politique d'ouverture profite beaucoup plus à l'acteur kurde, parce qu'on avait commencé à voir les acteurs kurdes, les symboles des Kurdes dans l'espace public, entendre le kurde, voir les politiciens kurdes présenter très clairement les objectifs des Kurdes et parler des solutions. Beaucoup d'acteurs des milieux conservateurs et de droite accusaient le gouvernement d'avoir laissé la rue aux Kurdes, au PKK, donc il y avait des critiques. Et finalement, surtout quand il y a eu des élections, Erdogan s'est rendu compte que cette ouverture profite beaucoup plus à l'acteur kurde et au détriment justement de l'AKP parce qu'il a perdu en fait la majorité. À partir de là, il a très rapidement d'ailleurs, il a tourné la veste ou il a arrêté ce processus et il est revenu à la gestion traditionnelle de la question kurde, c'est-à-dire une gestion sécuritaire, d'autant plus qu'il avait besoin du vote des nationalistes. Et je crois que c'était lié aux objectifs régionaux. Et puis, changement était lié beaucoup plus à cette peur, à cette crainte de perdre la majorité et voir un acteur kurde renforcé.
Donc on peut dire que Erdogan, ottomaniste, est plus favorable à la cause kurde parce qu'il a même prononcé du Kurdistan de Turquie que Erdogan républicain actuel.
Après, il y a une très grande difficulté avec Erdogan. Parce que quand il dit qu'il est ottomaniste, est-ce qu'il est vraiment ottomaniste ? Parce qu'il peut dire une chose et puis faire exactement son contraire, faire quelque chose et dire exactement son contraire. Donc c'est, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand il y avait encore Davutoğlu, quand il y avait encore tous ces acteurs ottomanistes, néo-ottomanistes autour d'Erdogan, et ils avaient, en fait, ils croyaient vraiment qu'ils allaient pouvoir faire leur prière de vendredi à la mosquée Omeyyad de Damas, c'était l'un des objectifs, ils pensaient qu'il fallait mettre un peu d'ordre à l'intérieur et trouver une certaine solution, sans donner des droits. D'ailleurs, à l'époque, ils ne donnaient aucun droit. Ils demandaient juste au PKK de retirer ses combattants et arrêter la lutte armée. Justement, ils étaient critiqués pour ça. Donc, quand ils avaient cet objectif-là, je pense qu'ils se sont accordés une certaine marge de manœuvre, mais rapidement, ils ont vu qu'en Syrie et en Turquie, les Kurdes se renforcent, et d'autant plus que dans les élections, ils ont perdu des votes. Alors, ils ont arrêté cela de manière extrêmement radicale pour adopter une politique répressive aussi radicale que cette rupture radicale.
Est-ce qu'on a le temps de prendre une toute dernière question pour Madame ? Madame ici, madame ? Ici, je pensais à madame qui était là.
Excusez-moi, je suis luxembourgeoise et donc je parle un peu pour l'Union européenne. Est-ce que la question de Erdogan avec les Kurdes, l'ouverture n'est pas un peu un jeu quand les Européens ont laissé entendre qu'il y avait peut-être une ouverture d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne et que bon, maintenant tout à fait échec, mais en tout cas, moi, jeune à l'époque, c'est un peu ça comme j'ai compris que, oui, cette ouverture turque de se dire, oui, d'accord, on fait des démarches d'ouverture de l'Union européenne si les minorités kurdes ne sont plus réprimées.
Est-ce que ça a pu être une monnaie d'échange ou est-ce que les cyniques diront qu'il n'y a jamais réellement eu de volonté d'ouverture vis-à-vis de la Turquie ? Mais ça, c'est une question d'interprétation. Je sais pas, un petit mot sur ça, peut-être ?
Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que, déjà, ce n'était pas la première fois qu'un leader turc pensait à proposer justement une ouverture. Il y avait Turgut Özal qui avait déjà essayé. En tout cas, à l'époque, le changement ne pouvait pas venir du parti kémaliste, qui est profondément nationaliste, donc ça devait venir de quelqu'un d'autre. Özal, c'était justement, c'était pas l'AKP, puisqu'il n'existait pas, mais c'était plutôt de ce côté-là, plutôt conservateur, islamiste, un peu. Donc ça, le changement devait venir, en quelque sorte, à mon avis, de cette aile-là. Et puis, pendant les années 90, alors qu'il y avait justement toutes les négociations sur l'Europe, c'est peut-être les années où il y a eu plus de violence en Turquie et plus d'assassinats contre des opposants kurdes et la guerre contre le PKK. Donc, je ne pense pas que c'est un élément central.
Juste aussi pour ajouter, le rapport de force allait dans l'autre sens. Erdogan qui jouait cette carte du contrôle des flux migratoires avec un accord financier extrêmement favorable à la Turquie. Et c'est cette question-là qui primait. Le reste, pas vraiment, et encore aujourd'hui, finalement.
Très bien. Je crois que je ne dirais pas qu'on a fait le tour de la question. Il faudrait peut-être 100 années supplémentaires. Mais en tout cas, merci. Merci à tous de ces questions. Et merci surtout à nos intervenants.